Marcel Pagnol a vécu le temps des secrets. Il a vécu le temps des amours. Et nous, nous vivons le temps des abus. Et plus précisément, ce dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est la fin des abus. Parce que nous voyons dans ce monde, dans notre monde, beaucoup d'abus et dans tous les domaines. Le titre du sermon, c'est donc la fin des abus. Quand nous regardons la définition dans Larousse du mot abuser, c'est défini comme user mal de quelque chose, en user avec excès. L'exemple classique, c'est l'abus d'alcool. Ou en tirer un profit excessif. Là encore, on peut donner l'exemple de user de son autorité d'une façon excessive. Ou bien exagérer, dépasser la mesure. Exemple, profiter avec excès de la bonté de quelqu'un ou de sa patience. Le petit Robert dit ceci, quand on regarde le mot abus, ça vient du latin abusus, qui veut dire mauvais usage, l'action d'abuser d'une chose, un usage mauvais, excessif ou injuste. L'exemple, abus d'autorité. Ça peut être aussi l'abus de pouvoir, abus de droit, abus de confiance, abus de biens sociaux. Et le verbe abuser veut dire aussi dépasser ou outrepasser. L'exemple, c'est que on peut tromper quelqu'un en abusant de sa crédulité. C'est intéressant parce que dans la Bible, Dieu nous parle aussi de ce genre d'abus, de différentes formes d'abus. Et nous voyons dans Tite chapitre 1, verset 10 et verset 11, le genre de situation que ceci peut engendrer. Tite chapitre 1 et le verset 10. Tite chapitre 1, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Qu'est-ce qu'ils font ces gens, verset 11? Ils bouleversent des familles entières en saignant pour un gars honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Des gens qui séduisent, qui abusent la naïveté, qui abusent la crédulité des autres. Et c'est vrai que quelqu'un qui séduit peut bouleverser des familles entières. Il y a tellement de domaines où on abuse de tout, pratiquement dans ce monde. Des hommes qui abusent parfois des femmes, dans tous les sens du terme. Des parents parfois qui abusent de leurs enfants. Et des adultes qui abusent des enfants. Il y a l'exemple très triste des enfants de 4 ans seulement, qu'on fait travailler. Et on les réveille à 4 heures du matin pour le faire travailler, pour qu'il fasse des briques. C'est un abus vraiment, vraiment considérable. Quel avenir de tels enfants traités de cette façon peuvent-ils avoir? Il y a aussi le tourisme sexuel qui est aussi un abus, et les êtres humains abusent les uns des autres. Ils abusent par exemple de leur temps, parfois même de leur gentillesse. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de 3 domaines, peut-être 4, où il y a des abus, beaucoup d'abus. Le premier domaine, c'est l'abus de la terre. On emploie le mot « exploitation » dans le monde agricole. Et parfois c'est vrai, parfois c'est vraiment de l'exploitation où on abuse des ressources de la terre. On abuse de la terre parce que ce que nous prenons parfois est plus que ce que nous lui donnons. le WWF, qui est mondialement connu, et qu'on peut traduire en français par la Fondation pour le monde de la vie sauvage, le WWF est très impliqué dans ce processus du fait d'avertir ou de parler de ce fameux jour de dépassement qui est défini comme la date fatidique qui indique quand l'humanité a utilisé tout le budget écologique de l'année. Et ce budget représente la quantité de ressources que la Terre peut renouveler annuellement. Et nous devenons, de ce point de vue-là, nous devenons de plus en plus pauvres. La Terre a des ressources naturelles qui sont présentes, notamment dans son sol. Il y a des ressources renouvelables. C'est tout ce qui est végétal faisant partie de l'écosystème. L'air, l'eau, le sol, la forêt, etc. Ce sont également des produits sauvages et des minéraux. De l'autre côté, il y a des ressources non renouvelables, qu'on puise dans cette terre, qui sont présentes dans le sol, qui arriveront forcément à l'épuisement, comme le pétrole et les minéraux qui sont exploités pour extraire des matières premières, pour faire des smartphones, par exemple, entre autres. Cette année, le jour de dépassement mondial est le 28, enfin on parle de 2020, le jour de dépassement mondial est le 22 août 2020 et l'humanité va dépenser ce que la Terre peut produire en un an. Autrement dit, dans 2020, on vivait déjà 4 mois dans le rouge. Le jour de dépassement peut être défini autrement. C'est le jour à partir duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, construit et cultivé sur plus de terres que ce que la nature peut nous procurer au cours de l'année. Et cela marque également le moment où nos émissions de gaz à effet de serre par la combustion d'énergie fossile auraient été plus importantes que ce que nos océans et nos forêts peuvent absorber. On dépasse la mesure, on abuse de notre écosystème. On abuse de la terre que Dieu nous a donnée. Depuis les années 1970, la date du jour de dépassement se dégrade. En 1998, il avait lieu le 30 septembre. En 2019, il arrivait 2 mois plus tôt, le 31 juillet. Et cette année, donc 2020, le Global Footprint Network a estimé que les mesures prises pour faire face à la crise sanitaire COVID-19 et leurs effets ont fait reculer la date de 3 semaines. Mais nous allons reprendre nos activités logiquement et nos problèmes vont toujours persister. Pour subvenir aux besoins de l'humanité, il faut en réalité 1,6 terre, tout au moins comme nous vivons actuellement. Des solutions existent, mais l'homme n'est pas forcément pressé pour appliquer ces solutions. Il va y avoir la fin de cette exploitation, la fin de ces abus. Nous voyons dans Romains chapitre 8, le verset 21, Romains chapitre 8, verset 21. On va commencer avec le verset 20 pour situer le contexte. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont être transformés, vont avoir cette liberté, et de pair avec cela, comme c'est marqué ici, La création était soumise à la vanité avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Un lexique biblique en français donne aussi comme définition pour le mot corruption le mot destruction. Et dans 2 Pierre chapitre 2 et le verset 12, 2 Pierre chapitre 2 verset 12, je ne m'y rapporte pas, le même mot est traduit par détruite. Combien de choses l'homme a-t-il détruit? Combien de choses l'homme a-t-il abusé? Verset 22, Romains 8, verset 22, « Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. L'homme souffre justement à cause des abus de l'homme, et il y a toutes sortes de problèmes à ce niveau-là. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estimait déjà en 2012 que la pollution de l'air était le plus grand risque environnemental pour la santé. Responsable d'environ 7 millions de décès prématurés dans le monde. Et Dieu va mettre fin à tous ces abus. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les promesses de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous aussi, parce que ces deux choses vont de pair. Nous aussi, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Le monde va être renouvelé. Le monde attend la fin des abus à ce niveau-là. Dans Actes chapitre 3 et le verset 21, Actes chapitre 3 verset 21 parle du rétablissement de toutes choses. Nous cherchons, nous pratiquons déjà, parce que Dieu veut que nous pratiquions les vraies valeurs. Et quand il y aura le rétablissement de toutes choses, il y aura des vraies valeurs. Quand les choses vont redevenir comme elles étaient avant, quand l'homme n'abusait pas de la terre comme il le fait maintenant. Et là, on peut prendre deux écritures. On peut prendre, par exemple, Ésaïe, chapitre 51, verset 3. Vous n'avez pas besoin de vous rapporter. Je le lis seulement. Ésaïe, chapitre 51, et le verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Il va y avoir un renouveau, quelque chose de spectaculaire. Le monde va redevenir quelque chose de très beau. Et c'était aride, un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant de cantique. Il y a aussi Ézéchiel chapitre 36, les versets 34 et 35. Ézéchiel 36, versets 34 et 35. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira cette terre dévastée parce qu'il va y avoir encore beaucoup de destruction sur cette terre. Je reprends. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Il va y avoir une guérison spectaculaire de ce monde. On peut le lire aussi dans Ésaïe chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Ce sera de nouveau quelque chose de splendide, de magnifique. Ésaïe, toujours 35, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Puis le verset 7. « Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. » Dieu nous a créés pour que nous prenions soin de la terre, pour que nous le cultivions, comme il est écrit dans Genèse chapitre 2, pas pour que nous en abusions. Amos chapitre 9 et le verset 13 est une écriture avec laquelle nous sommes familiers. Et Amos chapitre 9 verset 13 décrit précisément comment les choses vont être à l'avenir quand il n'y aura pas cet abus. Souvent, on le cite à la fête des tabernacles. Amos chapitre 9 verset 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répande la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. J'ai un commentaire de Thomas Nelson, qui a fait un commentaire assez connu de la Bible, et il dit ceci à propos de Amos, chapitre 9, verset 13. Il explique que le laboureur récoltait normalement d'abord l'orge et ensuite le blé à partir de la fin du mois de mars jusqu'au début du mois de juin. Et il semait au début de la saison des pluies au milieu du mois d'octobre. Donc, ce que cela signifie, c'est ce que M. Nelson précise, c'est une déduction intéressante, c'est que si, comme il est écrit ici, le laboureur suivra de près le moissonneur, cela sous-entend que la récolte allait continuer, qu'elle n'allait pas se terminer au mois de juin, mais que la récolte allait continuer jusqu'au mois d'octobre, tellement elle était abondante. Et que celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, celui qui ramassait les raisins allait continuer la récolte pendant plusieurs semaines parce que normalement les raisins étaient ramassés depuis le milieu de l'été jusqu'au début de l'automne. La semence sera faite après qu'ils aient cultivé la terre et elle était faite plutôt à la fin de l'automne. Si la récolte était tellement abondante, ils allaient continuer à ramasser les raisins jusqu'à la fin de l'automne. C'est donc la réflexion, déduction intéressante de la part de M. Nelson. Mais c'est une déduction très intéressante. C'est la fin des abus de la terre, de notre système, de notre écosystème, parce que nous ne pouvons pas continuer à emprunter comme nous empruntons maintenant. Une deuxième chose dont j'ai voulu vous parler, c'est l'abus de droit. L'abus de droit peut être constitué, par exemple, lorsqu'une personne détourne une voie de droit de son but légitime dans l'espoir de commettre en toute impunité une voie de fait. C'est un langage un peu technique, un peu légal. L'exemple, il peut en être ainsi lorsqu'un automobiliste provoque un léger accident qui lui permettrait de faire réparer sa voiture déjà en piteux état aux frais de l'assureur. C'est arrivé une fois que ma femme a eu un accident, quelqu'un qui a embouti notre voiture. Elle est allée voir le garagiste après l'accident, et le garagiste n'avait pas l'air surpris quand il a appris qui était la personne de l'autre voiture. C'était dans ses habitudes de procéder ainsi pour faire réparer sa voiture aux frais de l'assurance. Un autre exemple, lorsqu'un voisin a le droit de construire un mur, mais le fait de le construire à une hauteur importante, vous imaginez cela, vous avez le droit de construire un mur et vous le construisez tellement haut, simplement pour nuire à son voisin. Ceci constitue un abus de droit. Un abus de droit. Ce qui est intéressant quand on voit ces abus de droit, c'est d'analyser Parce qu'en définitive, quand on analyse, on voit souvent qu'il s'agit de prendre, de nuire, de ne pas aimer son prochain, au contraire, de nuire à son prochain. Et dans le monde à venir, il n'y aura pas cette animosité. Ce sera remplacé par l'amour. Ce sera remplacé par le fait de faire du bien à son prochain. Ésaïe chapitre 9 et le verset 6. Ésaïe chapitre 9 et le verset 6. Ici, il s'agit d'un contexte prophétique. Je cite, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir, comment? Par le droit et par la justice. Et cela va être le droit de Dieu. » La version Ostewald traduit ce verset par ceci, « Dans l'équité et dans la justice. » Et puisque cela va être le droit de Dieu, ça va être un droit parfait. Je reprends. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de régime comme cela se fait maintenant dans différents pays. Avec Dieu dans le royaume, ce sera constant, stable, permanent, durable, ce sera pour toujours. Les gens auront appris la loi de Dieu. Ils auront appris le respect pour autrui. Ils auront appris comment il faut se comporter. En tournant la page, Ésaïe chapitre 11 et le verset 9, nous lisons ceci, Ésaïe chapitre 11 et le verset 9, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. David Martin traduit ce verset de la façon suivante. On ne nuira et on ne fera aucun dommage, entre parenthèses, à personne, dans toute la montagne de ma sainteté. On ne nuira et on ne fera aucun dommage à personne, entre parenthèses, dans toute la montagne de ma sainteté. Parce qu'il y aura la connaissance de l'Éternel, la connaissance des lois de Dieu, et Dieu ne permettra pas qu'il y aura des abus dans le monde à venir, dans le millénium, comme c'est le cas maintenant. Les abus de droit, qui sont monnaie courante maintenant, n'existeront pas à l'avenir. Ce sera la fin des abus de droit. Les gouvernements nous donnent des droits, mais ne nous donnent pas le droit d'en abuser. Une troisième façon par laquelle nous pouvons abuser, il y a bien sûr beaucoup de manières à abuser, mais la troisième que j'ai choisie pour ce sermon, c'est l'abus du pouvoir et de l'autorité. C'est quelque chose qui est très, très répandu. Tous les pays ont eu des abus à travers leur histoire. J'ai voulu prendre ici un exemple en Grande-Bretagne. Je me permets de le prendre en tant que Britannique, justement. La Grande-Bretagne a été historiquement fière de sa marine. Mais j'ai voulu vous citer quelque chose à propos de l'histoire et à propos de l'histoire de la marine britannique. C'est un article écrit par un certain Patrick Llewellyn, qui est un féru de l'histoire ou passionné par l'histoire. Son article est à propos de la marine de guerre au XVIIIe siècle. Il parle de comment le recrutement se faisait à l'époque avec tous ses abus. Et je cite son article. Les besoins de la Navy, la marine britannique, en effectif étaient énormément supérieurs aux besoins de la marine française. Celle-ci comptait à son pic, à la fin du règne de Louis XVI, environ 65 000 hommes. À la fin des guerres napoléoniennes, 120 000 hommes peuplaient la marine anglaise. celle-ci ne pouvait faire autrement que de recourir à la presse pour compléter ses équipages. Quand on parle des abus, ce cas de figure est incroyable. Et je me rappelle d'avoir appris ceci à l'école. Concrètement, les commandants envoyaient à terre, sur les côtes, des détachements de fusiliers marins pour embarquer de force les hommes qu'ils rencontraient. En priorité, les marins, entre guillemets civils, marins marchands, pêcheurs, mais ceux-ci devenaient prudents et se laissaient plus difficilement débusquer. Alors, on encerclait par surprise les tavernes, d'où l'on embarquait d'office tous les clients. Finalement, les détachements de presse durent s'enfoncer de plus en plus loin dans les terres, ramassant tout malheureux quidam qui passait par le chemin. Ainsi se trouvaient pris dans les nasses des coiffeurs, des vagabonds, des clercs de notaire ou des ouvriers agricoles, tout sauf des marins. Ils laissaient parfois derrière eux une femme et des enfants dont ils étaient la seule ressource. On imagine l'état psychologique de ces pauvres gars, une discipline terrifiante, la mer et les années en faisant des équipages aguerris et terriblement efficaces. Mais pas sans dégâts. Ensuite, dans son article, il parle des mutineries, et ça c'est nettement moins connu, qui arrivaient peut-être justement à cause de ces conditions si pénibles. André Malraux a dit « Ceux qui croient que le pouvoir est amusant confondent pouvoir et abus de pouvoir. » Je répète, ceux qui croient que le pouvoir est amusant confondent pouvoir et abus de pouvoir. Mais là encore, nous avons des exemples dans la Bible des abus de pouvoir. Nous avons les fils d'Élie, Hophni et Phiné, qui prenaient le meilleur pour eux-mêmes, autant qu'ils voulaient, mais qui ne s'acquittaient pas de leurs responsabilités ordonnées par la loi. Vous trouverez cela dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Ésaïe chapitre 59 est un passage qui condamne Israël. C'est la suite d'une condamnation de péchés nationaux et individuels. Je lis le verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils abusent. Ils trempent dans leur façon d'intervenir. Verset 7. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Des abus. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Et c'est parce qu'il y a de tels abus, de telles façons de procéder, que nous avons ce qui est décrit dans le verset 9. Je cite verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, parce qu'il y a des gens qui souffrent à cause des abus. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Ésaïe chapitre 59, toujours verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. M. Armstrong parlait déjà de ceci, de cet état de choses. Et dans l'Église, Dieu nous enseigne, Dieu nous instruit, Dieu nous guide, Dieu nous montre et nous dirige sur la bonne voie. Et il nous a donné le ministère pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous montrer cette bonne voie. Il y a énormément d'abus de pouvoir, d'autorité, à travers les années, à travers l'histoire du monde. L'exemple britannique est un exemple qu'on voit reproduit d'une certaine façon dans d'autres pays. La France est consciente de son histoire aussi. Mais il va y avoir un changement radical. Ce que les Américains appellent « watershed », c'est-à-dire une étape décisive. Le gouvernement de Dieu va s'installer avec tout ce que cela implique. Le Christ va revenir dans sa gloire avec une puissance suprême. Et nous voyons dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 1, Ésaïe chapitre 11 et le verset 1, nous lisons ceci, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y aura la loi de Dieu à la base. Il n'y aura pas d'abus. Il n'y aura pas le fait de vouloir exploiter l'être humain, un autre être humain, de vouloir lui faire du mal, de vouloir s'élever aux dépens des autres. » Ésaïe 11, toujours verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point. » C'est intéressant. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un lui-dire. Il n'y aura pas d'abus de ce côté-là. On va aller au fond des choses. On va chercher la vérité. Il y aura une justice absolue, la justice de Dieu. Verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il jugera les pauvres avec équité. Et parfois les pauvres ne sont pas jugés avec équité parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Souvent, il y a des abus avec les pauvres ou avec ceux qui n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Il y a aussi les malheureux de la terre, beaucoup de malheureux sur la terre qui souffrent tous les jours. Beaucoup de malheurs à cause de la corruption, à cause des guerres. Il n'y a pas que nos frères et nos sœurs dans l'Église qui souffrent et pour qui il nous faut prier. Nous avons besoin de prier pour que le royaume de Dieu vienne soulager tous ces malheureux. Toute cette souffrance qui est souvent la conséquence des abus de tout genre. Nous pouvons anticiper la fin des abus. Il y a des bonnes nouvelles. Ésaïe chapitre 40 et le verset 9, c'est une autre prophétie. Ésaïe chapitre 40 et le verset 9, où nous lisons ceci. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Verset 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras y commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Ensuite, pour reprendre le thème que j'ai mentionné tout à l'heure, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. C'est comme un berger que le Christ va devenir. Un bon berger, c'est quelqu'un qui donne. Vous vous rappelez ce que Jacob a dit à Ésaü? Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. C'est comme un berger que Dieu va paître son troupeau. La rabbina dit ceci, et conduit avec douceur les mères qui allaitent. Il y a dans cette image, c'est plus qu'une image, c'est la réalité. Il y a dans le verset 11 de la tendresse de la part du Christ, de l'amour de la part du Christ, et le Christ va intervenir. Il va paître les êtres humains, il va paître son troupeau. Et David avait aussi cette notion de berger. Et si vous voulez éliminer des abus, une très bonne façon d'éliminer des abus, c'est d'agir en tant qu'un bon berger. Le mot que nous trouvons dans Ésaïe 40 et le verset 11, le mot « paître » est traduit ailleurs par tout un éventail de traductions. Nourrir, conduire, diriger, pâture, pâturage et repaître. Et il y en a même d'autres traductions. Le mot veut dire littéralement, si on prend l'ouvrage biblique Strong's, je traduis en français, paître un troupeau. Paître un troupeau. Cela vous donne une idée de la richesse de ce mot. Et clairement, ici, c'est le fait de donner. Le Christ lui-même, on va regarder cela dans Jean chapitre 10, le Christ lui-même définissait ce que c'était un bon berger. Ou ce que c'est un bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Il parle de ce qu'est un bon berger, c'est le fait de donner, justement. Jean chapitre 10 et le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Christ revient pour prendre soin de ses brebis. Il s'est donné pour ses brebis. Il s'est sacrifié. C'était le berger parfait. Et ce berger parfait va revenir. Je reprends Jean chapitre 10 et le verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire qui ne se met point en peine des brebis. Et en contraste avec ceci, le Christ dit, « Je suis le bon berger ». Verset 14, « Je connais mes brebis. Lui, Dieu, venu sur terre, il les appelle des brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Il se donne pour ses brebis. Et nous voyons qu'il y aura un changement. Dans Ézéchiel chapitre 34, nous voyons qu'il y aura un changement. C'est ce qui est encourageant dans ce chapitre. Un changement de régime parce que le Christ va revenir. Le Christ va agir en tant qu'un bon berger et on voit à partir du verset 11 les conditions qu'il va donner à ses brebis. Nous voyons comment Dieu va intervenir, comment le Christ va intervenir quand il revient. Et souvent, derrière un abus, il y a le fait de prendre. Ici, nous voyons que le Christ donne. Ézéchiel chapitre 34 et le verset 11. Ézéchiel chapitre 34 et le verset 11, où nous lisons ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte. C'est l'une des choses qu'un bon pasteur devrait faire. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Le Christ donne. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur la montagne d'Israël. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. Dieu leur donne un moyen d'être paisible, d'être heureux. De nouveau, nous retrouvons le mot paître, comme tout à l'heure. Et quand on parle de berger, David avait la mentalité d'un bon berger. Verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera le pasteur. La nouvelle édition de Genève, 1979, dit ceci. J'établirai sur elle un seul berger qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera le berger. David savait ce que c'était de donner, de risquer même sa vie pour le troupeau. Vous rappelez ce qu'il a dit à Saül juste avant d'aller se battre contre Goliath? Il a dit, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il protégeait le troupeau. Il risquait sa vie pour les brebis, pour donner. » Je reviens à Ézéchiel 34, verset 24 maintenant. « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur, David, sera prince au milieu d'elle. » Donc, il aura une position de responsabilité, d'autorité, mais il va agir en tant qu'un berger. Et à partir du verset 25, nous voyons tout le bien que l'Éternel fera à son troupeau. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Ce sera la fin des abus de l'autorité, du pouvoir, parce que Dieu a tout prévu. Et nous voyons dans Jérémie chapitre 32, ce que Dieu donne est le résultat de la bonté de Dieu. Le bien-être, l'agrément du troupeau. Jérémie chapitre 32 et le verset 40. Jérémie chapitre 32 et le verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et le mot bien revient à plusieurs reprises. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. C'est la deuxième fois que c'est mentionné. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Verset 42. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Et dans l'espace de trois versets, nous avons l'expression « le bien » le bien que Dieu va faire à son peuple. Il y a un quatrième domaine que j'ai voulu citer, c'est l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse est quelque chose qui est malheureusement répandu. Et l'abus de faiblesse est le fait pour une personne de profiter de l'ignorance ou de la faiblesse physique ou psychique d'une autre personne pour lui faire souscrire un contrat inadapté, par exemple, un contrat inadapté à ses besoins. L'exemple classique, c'est un dépanneur qui abuserait d'une personne âgée pour lui faire accepter un devis d'un montant exorbitant, en lui expliquant peut-être qu'il a besoin de ceci et cela. Et la personne âgée, ou peut-être handicapée, peut-être à cause d'une faiblesse, va à ce moment-là accepter la démarche. Les personnes âgées peuvent être les victimes d'abus de faiblesse dans des cas de figure très différents, démarchage à domicile ou rédaction d'un testament, par exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, nous voyons ici, ce n'était pas pour nuire à quelqu'un d'autre, mais nous voyons les conséquences d'un comportement vis-à-vis des gens qui sont plus faibles. Ce n'était pas fait sciemment, mais nous voyons 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7. Une conséquence vis-à-vis de quelqu'un qui est faible, faible dans la foi. Je saute au milieu d'un contexte, le verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée à cause du comportement d'autres personnes. Ce n'était pas fait pour nuire, mais nous voyons les conséquences qu'il peut y avoir quand une conscience est faible. Mais les abus existaient ou pouvaient exister déjà à l'époque, et Dieu a prévu que les gens ne trompent pas leur prochain. Ce principe-là, nous allons le retrouver à l'avenir. Je vous donne deux références. D'abord, Lévitique, chapitre 19 et le verset 35. Lévitique 19, verset 35. On peut abuser quelqu'un quand on trompe quelqu'un. Quand on ne dit pas la vérité. Lévitique 19, verset 35. Nous lisons. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effets justes et des injustes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. À notre époque, tout au moins en France, il y a un certain nombre de contrôles pour que les gens n'abusent pas à ce niveau-là. Mais le fait que Dieu a dit qu'il ne fallait pas abuser, je ne sais pas s'il y avait des contrôles à ce moment-là, nous démontre ce qui va se passer à l'avenir. Il y a un autre passage dans Deutéronome chapitre 25 et le verset 13. Deutéronome chapitre 25 et le verset 13. Et ici, c'est intéressant à cause d'un langage qui est employé. Deutéronome 25, verset 13. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit, pour tremper justement. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'éphas, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un éphas exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et ensuite le verset 16. C'est intéressant par rapport à l'avenir, par rapport au régime que Dieu va installer. Il n'y aura pas de ces abus. Deutéronome chapitre 25, verset 16. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous imaginez quand le Christ va revenir, il y aura tout sauf ce qui est en abomination à l'Éternel. Les gens ne vont pas abuser, par exemple, de la faiblesse d'autrui, de quelqu'un qui est plus âgé, qui est plus susceptible justement d'être séduit. C'est quelqu'un qui manque de connaissances. Il y aura une fin des abus. Je suis sûr que vous pouvez faire votre propre liste. Il y aura tout sauf ce qui est en abomination à l'Éternel. Il n'y aura plus tout ce qui constitue une abomination et tous les abus en tout genre qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Il y a de l'abus, par exemple, quand nous achetons des choses, parfois. L'abus de confiance. Il y a un abus de langage, parfois maintenant, et même souvent. Il y a un langage où les superlatifs sont employés, où les mots perdent de leur valeur, un langage où les grossièretés sont utilisées, où les choses sont exagérées. Et à l'avenir, il y aura une nouvelle langue, donnée par Dieu. En temps de guerre, il y a souvent beaucoup d'abus. Ils sont très nombreux, les abus, en temps de la guerre, et comme j'ai dit, je suis persuadé que vous pouvez faire votre propre liste. Et par la même occasion, tout en faisant votre propre liste, je vous invite à réfléchir à comment Dieu va y remédier. À comment les choses vont être pour que ces abus-là n'existent plus, pour qu'il y ait la fin de tous ces abus. Ce qui est réjouissant, nous venons de vivre la fête de la Pentecôte, ce qui est réjouissant, c'est que nous allons aussi participer pour que ces abus cessent. L'homme va vivre en sécurité et en paix, et nous allons, comme je l'ai dit, nous allons participer dans cette installation du royaume de Dieu avec la fin des abus, et nous pouvons anticiper le fait de participer et d'éliminer toute la souffrance que l'homme connaît maintenant. Parce qu'avec le retour du Christ et l'installation du royaume à l'avenir, il n'y aura plus tous ces abus que nous connaissons et dont nous souffrons aujourd'hui. Et nous pouvons remercier Dieu chaque jour pour cette connaissance que nous avons de cet avenir que Dieu prépare pour l'humanité.